Chaque fois que je fais passer un entretien d'embauche, j'aime bien demander ceci. Quelle est la vérité fondamentale que très peu de gens partagent avec vous? Cette question paraît simple parce qu'elle est directe, mais en réalité, il est très difficile d'y répondre. Elle est complexe au plan intellectuel car, par définition, tout le monde s'accorde sur le type de connaissances que l'on enseigne dans le système scolaire. Et c'est une question également épineuse au plan psychologique, car quiconque tente d'y apporter une réponse sait qu'elle lui vaudra d'être mal perçu. Un esprit brillant est chose rare, mais le courage est plus exceptionnel encore que le génie. Voici les propositions que j'entends le plus fréquemment. Notre système éducatif est en panne et il faut y remédier d'urgence. L'Amérique est un pays exceptionnel. Dieu n'existe pas. Ce sont de mauvaises réponses. Les deux premières affirmations sont peut-être vraies, mais beaucoup de gens y souscrivent déjà. La troisième prend simplement parti dans un vieux débat. Une bonne réponse revêtirait par exemple la forme suivante. Une majorité de gens croient en X, mais la vérité est à l'opposé de X. J'y apporterai ma propre réponse plus loin dans ce chapitre. Quel rapport y a-t-il entre cette question à contre-courant et l'avenir? Dans sa définition minimale, l'avenir se compose simplement de l'ensemble de tous les moments qui restent à venir. Ce qui le distingue et lui confère toute son importance, ce n'est pas le fait de ne pas être encore advenu, mais plutôt qu'un jour viendra où le monde paraîtra différent de tel qu'il est. En ce sens, si rien ne change dans notre société au cours des 100 prochaines années, c'est que le futur se situe à plus de 100 ans. Si, au cours de la décennie à venir, les choses changent radicalement, alors l'avenir est presque à portée de main. Personne ne peut prédire exactement l'avenir, mais nous savons deux choses. Il sera autre et il devra s'enraciner dans le monde actuel. La plupart des réponses à cette question à contre-courant renvoient à différentes manières de voir le présent. Les bonnes réponses sont celles qui déchiffrent le mieux l'avenir. De 0 à 1, l'avenir du progrès. Lorsque nous réfléchissons au futur, nous espérons du progrès. Ce progrès peut revêtir deux formes. Le progrès horizontal ou extensif suppose de copier ce qui marche, en passant de 1 à n. Il est facile à imaginer car nous savons déjà à quoi il ressemble. Le progrès vertical ou intensif suppose de créer du neuf, en passant de 0 à 1. Le progrès vertical est plus complexe à imaginer parce qu'il impose de faire ce que personne d'autre n'a encore jamais fait. Si vous prenez une machine à écrire pour en construire 100, vous aurez accompli un progrès horizontal. Si, partant d'une machine à écrire, vous élaborez un traitement de texte, vous aurez accompli un progrès vertical. Au niveau macro, un mot désigne le progrès horizontal, la mondialisation. Reprendre ce qui fonctionne quelque part pour le faire fonctionner partout. La Chine est le paradigme de cette mondialisation. Son programme des 20 années à venir consiste à devenir ce que sont les États-Unis aujourd'hui. Les Chinois ont purement et simplement copié tout ce qui fonctionnait dans les pays développés, les chemins de fer du 19e siècle, la climatisation du 20e et même des villes entières. Et ils seraient capables de sauter quelques étapes en chemin, de passer directement au sans fil, sans installer de ligne téléphonique fixe, par exemple, mais il n'empêche que cela reste de la copie. Un autre terme désigne le progrès vertical, de 0 à 1, la technologie. Ces dernières années, les progrès rapides de la technologie de l'information ont transformé la Silicon Valley en capitale de la technologie, au sens général du terme. Mais rien n'impose que la technologie se limite aux ordinateurs. À proprement parler, elle englobe tout procédé qui se révèle supérieur ou inédit. La mondialisation et la technologie étant deux modes différents de progrès, il est possible de se fonder soit sur les deux, soit sur l'un des deux, soit sur aucun. Par exemple, de 1815 à 1914, le monde connut à la fois un développement technologique et une mondialisation rapide. Entre la Première Guerre mondiale et le voyage qu'effectua Henry Kissinger pour rétablir les relations avec la Chine en 1971, le développement technologique fut rapide mais la mondialisation demeurait timide. Depuis 1971, nous assistons à une mondialisation rapide, simultanément à un développement technologique limité, surtout confiné aux technologies de l'information. Cette ère de mondialisation a permis de comprendre que les décennies à venir seraient encore plus porteuses de convergence et d'uniformité. Même notre langage de tous les jours laisse entrevoir que nous croyons en une forme de fin de l'histoire technologique. La division du monde entre nations dites « développées » et pays en voie de développement implique que le monde développé ait déjà réalisé tout ce qui est réalisable et que les nations plus pauvres aient simplement besoin de rattraper leur retard. Mais je ne crois pas que ce soit vrai. J'ai moi-même une réponse à ma question à contre-courant. La plupart des gens pensent que la mondialisation définira l'avenir du monde, mais la vérité, c'est que la technologie pèse encore davantage. Si la Chine double sa production d'énergie au cours des 20 prochaines années sans changement technologique, elle doublera aussi sa pollution atmosphérique. Si chacun des centaines de millions de foyers indiens devait vivre comme les Américains, en n'utilisant que les outils et instruments d'aujourd'hui, les conséquences environnementales seraient catastrophiques. Propager d'anciens modes de création de richesses n'entraînera que la dévastation, pas l'enrichissement. Dans un monde aux ressources rares, la mondialisation sans technologie n'est ni viable, ni durable. Au cours de l'histoire, les nouvelles technologies n'ont jamais été un automatisme. Nos ancêtres vivaient au sein de sociétés statiques, à somme nulle, où réussir revenait à s'emparer des biens d'autrui. Ils ne créaient que rarement de nouvelles sources de richesses, et à long terme, ils n'étaient jamais capables d'en créer suffisamment pour épargner à l'individu moyen une existence extrêmement difficile. Ensuite, après 10 000 ans d'évolution très inégale, de l'agriculture primitive aux moulins médiévaux et aux astrolabes du XVIe siècle, le monde moderne connut subitement un progrès technologique ininterrompu depuis l'avènement de la locomotive à vapeur autour de 1760 jusque vers 1970. En conséquence, nous avons hérité d'une société plus riche que tout ce que les générations précédentes auraient pu imaginer. Ou pour être plus exact, les générations précédentes, excepté celles de nos parents et grands-parents. À la fin des années 1960, ceux-ci s'attendaient que ce progrès se poursuive. Ils espéraient une semaine de travail de 4 jours, consommer sans compter une énergie bon marché et passer des vacances sur la Lune. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Les smartphones qui nous distraient de notre environnement nous distraient aussi du fait que notre environnement est curieusement très ancien. Depuis le milieu du siècle dernier, seuls les ordinateurs et les systèmes de communication ont connu une transformation spectaculaire. Cela ne signifie pas que nos parents avaient tort d'imaginer un avenir meilleur. Ils avaient seulement tort d'espérer que cette amélioration serait automatique. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un double défi. Concevoir et créer les nouvelles technologies capables de rendre le XXIe siècle plus pacifique et plus prospère que le XXe. La pensée start-up. Les nouvelles technologies naissent généralement de nouvelles entreprises, les start-up. Depuis les pères fondateurs de l'Amérique, en politique, jusqu'à la Royal Society britannique, en science, et Fairchild Semiconductor, fondée par ses 8 traîtres, dans le secteur de l'industrie, de petits groupes d'individus réunis par le sentiment d'une mission à accomplir ont transformé le monde pour le rendre meilleur. L'explication la plus commode de ce phénomène est d'ordre négatif. Au sein de grandes entreprises, il est difficile de développer des nouveautés et plus difficile encore d'y parvenir tout seul. Les hiérarchies administratives évoluent lentement et certains intérêts bien établis répugnent à prendre des risques. Dans les structures les plus dysfonctionnelles, afficher le travail en cours devient une meilleure stratégie de progression de carrière que le travail effectivement accompli. Si c'est le cas dans votre entreprise, démissionnez au plus vite. À l'autre extrême, un génie solitaire serait capable de produire une œuvre d'art ou de littérature qui deviendrait un classique, mais jamais il ne pourrait créer un secteur industriel tout entier. Les start-up opèrent à partir d'un principe. Pour que les choses se fassent, il faut travailler avec les autres, mais pour réellement y parvenir, il faut aussi savoir conserver une taille modeste.